France Culture. Bonjour et bienvenue dans Être et Savoir, le magazine de l'éducation de France Culture, produit avec la collaboration d'Avril Ventura, réalisé par Perret Legras, avec Grégory Vallon à la prise de son ce soir. Les voyez-vous dans les villes avec leurs sigles mystérieux ELIGE, ESGRH, LISA, EPITECH, SIAE? Des étendards en décorent parfois les façades et des slogans les vitrines. La journée des grappes d'étudiants papotent et vapotent sur leurs trottoirs. Ce sont des écoles de l'enseignement supérieur. Elles se multiplient et sont l'expression physique d'un business qui se développe. Ce business, c'est l'enseignement supérieur à but lucratif, un marché de plus en plus lucratif. Et c'est notre sujet ce soir, au moment où tant de lycéens cherchent à s'orienter sur Parcoursup. La journaliste Claire Marchal publie un livre événement sur les pratiques du groupe leader du privé dans le supérieur, Galileo Global Education. Claire Marchal porte la plume dans la plaie. Ces écoles font-elles payer trop cher des étudiants et leurs familles pour engranger toujours plus de bénéfices? C'est vraiment la question qu'on va se poser ce soir en parlant des frais de scolarité, des pédagogies, de la taille des classes tout simplement et du management des différentes écoles de Galileo. On va en fait détailler ensemble les pratiques du groupe. Il y aura 3 invités dans cette émission. Elle se tient également à quelques jours d'un colloque inédit sur l'enseignement supérieur privé organisé à l'Assemblée nationale. Un colloque qui portera, eh bien, sur la régulation. Et ça aussi, nous en discuterons en nous demandant si Galileo fait figure d'exception dans le paysage éducatif du supérieur ou si c'est un cas d'école parmi d'autres.
Galileo est le leader mondial de l'enseignement supérieur privé, présent dans une vingtaine de pays, dans environ 110 campus, dont la moitié en France. Et on a le bonheur d'accueillir 220 000 étudiants tous les jours dans nos écoles. Dans 5 ans, Galileo va continuer à faire 2 choses qu'elle fait très bien aujourd'hui. La première, c'est de remplir sa mission d'intérêt général, qui consiste à former un maximum d'étudiants. Et puis la deuxième chose qu'on fait très bien, c'est de développer l'employabilité de nos étudiants.
Bonsoir Claire Marchal.
Bonsoir.
Alors le son qu'on vient d'entendre, c'est Pascal. On n'a pas son nom de famille, il est interviewé sur une chaîne dont le nom est Welcome to the Jungle. C'est pas du tout un clin d'œil à votre livre, c'est le vrai nom de cette chaîne en ligne sur le business. C'est comme ça qu'il la présente. Pascal donc donne quelques chiffres sur Galileo, vous les donnez aussi. Vous en donnez d'autres dans ce livre, Le Cube, enquête sur les dérives de l'enseignement supérieur privé, publié chez Flammarion. Ça vient de sortir, comme ça, j'oublie pas de le dire. C'est une sacrée enquête. Vous avez réuni de nombreux témoignages d'étudiants, de salariés. Vous avez recueilli des enregistrements de réunions, des enregistrements qui n'étaient pas censés sortir, des fichiers aussi qu'on vous a communiqués. Comment vous avez fait? Vous avez lancé des perches et puis peu à peu, les fils sont remontés, les gens se sont parlé. Comment ça s'est passé?
C'est vrai que ce livre, Le Cube, ça fait plus de 2 ans que j'ai commencé à travailler dessus. À l'origine, c'était une envie de comprendre la croissance de l'enseignement supérieur privé lucratif en France ces dernières années, en allant justement m'intéresser à ces grands groupes, ces multinationales de l'enseignement supérieur privé. Et assez vite, j'ai obtenu un certain nombre d'éléments, de témoignages qui témoignaient d'un système dédié à l'optimisation. En tout cas, s'il n'est pas dédié, mais qui va vers ça, vers l'optimisation. Ce livre, pour révéler ce système-là, il a nécessité un gros travail, plus de 2 ans d'enquête. J'ai récolté aussi 150 témoignages, étudiants, cadres, parents d'étudiants aussi, et puis plus de 900 documents confidentiels et en grande partie internes à l'entreprise leader du secteur Galileo Global Education. Et donc, comme vous le mentionniez, des audios notamment d'enregistrements qui sont vraiment au cœur de la révélation de ce livre.
Oui, des réunions donc très techniques où les gens échangent par exemple sur leurs objectifs en termes financiers ou en termes d'augmentation de la taille des classes. Bah, c'est aussi un objectif financier finalement puisque c'est ça qui permet à Galileo d'avoir de meilleurs résultats. Alors nous, on a essayé de les joindre évidemment avec Avril Ventura. La réponse d'une certaine Audrey, on donne pas trop son nom de famille dans cette entreprise, c'est nous allons malheureusement devoir décliner votre proposition de passage sur France Culture demain soir. Merci pour votre intérêt et excellente soirée. Ce message, on l'a reçu donc dimanche soir. Claire Marchal, quelles sont vos relations avec Galileo? Est-ce que vous avez eu des officiels, des gens qui travaillent encore dans le groupe? De Galileo.
Pardon?
Ou qui parlerait au nom de Galileo, je
veux dire. J'ai sollicité le groupe, la direction du groupe, pour obtenir des réponses à un certain nombre de questions que je me posais liées à cette investigation. Et le groupe n'a pas souhaité répondre à ces questions-là dans les délais qui avaient été ceux qui étaient nécessaires à l'écriture du livre. Donc les questions sont en annexe de l'ouvrage maintenant.
Est-ce que vous êtes senti, alors non pas menacé, mais un devoir de prudence face à un groupe qui est assez armé juridiquement et qui pourrait attaquer une telle enquête?
Moi, je me suis intéressée principalement à travailler avec la déontologie qui est celle que le journalisme demande, donc à recouper les nombreuses sources les éléments, les témoignages, les documents, les enregistrements. C'est pour ça que cette enquête, elle a pris du temps, qu'elle a pris 2 ans, parce qu'il était nécessaire de prendre ce temps-là pour récolter cette masse d'informations, pour la traiter, l'étudier et en faire cet ouvrage final, quoi.
Alors, c'est difficile d'avoir des réponses de Galileo, mais vous en avez eu, vous, Clément Lacombe, dans l'article. Ça me permet de vous présenter. Ensemble, on va vraiment parler de l'aspect financier, parce qu'il est un peu complexe, en fait, à expliquer, qui concerne pas que Galileo, mais d'autres groupes. On va beaucoup prononcer ce nom, mais il y a des écoles indépendantes, il y a un autre grand groupe français qui s'appelle Ionis, et il faut absolument... se limiter à Galileo, mais tout de même, c'est le thème de l'enquête de Claire Marchal. Que vous ont-ils dit, Clément Lacombe? Je précise que les bonnes feuilles du Cube ont été publiées dans le Nouvel Obs de cette semaine et que le titre de votre article, à vous, qui est très bon, c'est « Les super profits des marchands de diplômes ».
Donc, on les a interrogés, en fait, sur les points du livre qu'on a publié dans le Nouvel Observateur. Et donc, c'était d'abord sur la rentabilité du groupe. Et donc, ils ont dit que, effectivement, ils n'étaient pas si rentables que ça parce qu'ils présentaient une perte nette. Donc, on pourra revenir sans doute les raisons pour lesquelles ils présentent facialement, comptablement une perte nette. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne se soucient pas de leur rentabilité. Bien au contraire. On les interrogeait également sur le fait que sur un audit dont Claire Marchal parle dans son livre sur 61 établissements dans lesquels les règles élémentaires n'étaient pas respectées. Et donc là, la réponse était que ça peut arriver dans toutes les structures et que dans ces cas-là, on prend les mesures afférentes. Et également, on les a interrogés sur le degré de satisfaction des étudiants. Et eux disent qu'ils font des sondages, énormément de sondages en interne, et notamment que leurs étudiants se déclarent plutôt heureux et satisfaits. Ils parlent notamment d'une étude à Harris International.
Elle m'a été communiquée par un cadre de Galileo. Et effectivement, on va y revenir dans un instant. Claire Marchal, vous évoquez beaucoup de cas personnels, celui de Ludovic qui est au cours Florent, c'est une école qui appartient au groupe, André, Marie, Théo qui sont dans une école qui s'appelle Bellecour à Lyon, des élèves qui ont vu leurs rêves brisés, qui ont dépensé énormément d'argent. Elle est très importante, cette entrée à hauteur d'individu. C'est aussi pour dire que votre livre, c'est pas que une description d'un système économique et financier. Que vous ont-ils livré ces élèves de leur déception?
Vous avez mentionné Ludovic au cours Florent. Ludovic, son rêve, c'était d'intégrer une école de musique pour s'épanouir dans la musique. Voilà, c'était un rêve d'enfant, quoi. Donc il a payé plus de 6 500 € une année, une première année, pour déménager à Paris aussi, quitter son domicile familial, découvrir une nouvelle ville, découvrir un établissement avec plein d'étoiles dans les yeux. Et puis il s'est très vite rendu compte qu'il y avait beaucoup moins d'heures de cours que prévu. C'est-à-dire que, en gros, une dizaine d'heures de cours maximum par rapport à un tarif, encore une fois, de plus de 6 000 € l'année. Les salles de répétition qui avaient été promises, elles n'étaient pas forcément accessibles. Que la qualité des cours n'était pas à la hauteur de ces attentes. Qu'ils étaient trop nombreux dans les salles de classe pour tous pouvoir répéter, en fait, à chaque cours. Donc, lui comme d'autres, parce que ce n'est pas le seul étudiant du cours Florent avec qui j'ai pu échanger, me disent parfois passer plusieurs semaines... sans pouvoir s'exprimer musicalement en cours, quoi. Ce qui n'est pas le but d'une école de musique, surtout lorsqu'ils la payent si cher, me disent-ils. Donc ça a été une énorme déception. Ludovic, il a décidé d'arrêter sa formation parce que ça lui coûtait trop cher financièrement, mais aussi émotionnellement, hein, qu'on se le dise. Ça a été un vrai échec. Enfin, il a ressenti beaucoup d'échecs. Et ça a été très dur. Et il n'est pas le seul à avoir abandonné cette école, comme à avoir abandonné plein d'autres écoles du groupe, puisqu'encore une fois, comme le dit, il ne s'agit pas d'un seul étudiant, mais de beaucoup d'autres. À Bellecourt, c'était la même chose.
Alors, sur les heures de cours, justement, on a recueilli un témoignage pour entendre la voix d'étudiants.
On a une réunion d'accueil normale, et puis arrive l'heure du déjeuner, on mange, on revient, et on constate dans notre planning qu'on est en travail en autonomie. Et donc, on n'a rien à faire, on ne sait pas quoi faire, on est en travail en autonomie, pendant une heure et demie. Donc oui, on appelle ça des faux cours.
Mais si vous faites le ratio, c'est-à-dire que vous avez quasiment une journée de travail en autonomie contre une journée de cours. Et c'est assez révélateur, je trouve.
Bonjour à toutes et à tous. Ce message pour vous informer que votre planning du samedi 28 janvier a changé. Vous aurez dû apprendre à apprendre toute la journée.
Voilà. Là du début à la
donc, autant vous dire que bien évidemment, personne ne va se déplacer pour apprendre à apprendre tout un samedi. Tout le monde est au courant, tout le monde sait, mais on nous prend pour des imbéciles, quoi.
Apprendre à apprendre, pourtant, ça pourrait être pas mal, mais c'est sûr que sans enseignants, sans salle de classe, ça pose question. Pourtant, on a cité l'étude de Harris Interactive que j'ai pu consulter. Le taux de satisfaction, d'après cette étude, est très élevé, en fait. Plus de 80% des élèves se disent plutôt ou très satisfaits par leur expérience chez Galileo. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça?
Effectivement, on constate que dans cette étude commandée par le groupe, on a des taux de satisfaction assez élevés hein, de la part des quelques milliers d'étudiants qui sont interrogés. Moi, je constate de mon côté que sur les 2 ans d'enquête que j'ai menée, j'ai recueilli, comme je le disais plus tôt, plus de 150 témoignages, dont plusieurs dizaines de témoignages d'étudiants qui me témoignent d'un profond mal-être pour certains. Je constate aussi que depuis quelques jours que cet ouvrage, Le Cube, il est sorti, j'ai recueilli de nouveaux témoignages. Qui se multiplient sur les différents réseaux ou par mail des étudiants et des parents d'étudiants qui m'écrivent pour me dire que la lecture de cet ouvrage ou des articles qui mentionnent cet ouvrage trouve une grande résonance en eux parce qu'ils se sentent un peu moins seuls, parce que c'est ce qu'ils ont vécu, parce qu'ils comprennent que c'est un système justement et pas uniquement leur propre expérience dans leur propre école. Moi c'est ça que je constate aujourd'hui.
Donc c'est pas seulement à la première personne, Clément Lacombe.
Ce qu'on peut dire, c'est que pour les étudiants, c'est des sommes très conséquentes, très importantes. C'est un investissement aussi. L'éducation supérieure, pour eux, c'est un investissement. Et donc leur diplôme a une valeur et c'est une valeur qui va durer tout le long de leur vie professionnelle, donc pendant 40 ans. Donc on peut comprendre que parfois, c'est des individus qui peuvent avoir du mal à critiquer ouvertement, publiquement, ce sur quoi ils ont investi. Eux, personnellement, leurs parents, et même s'avouer qu'ils ont pu faire une erreur ou s'avouer que leurs parents ont pu commettre une erreur, peut être assez compliqué.
Et assez douloureux. Évidemment, en France, le poids du diplôme, c'est quelque chose qu'on dit souvent dans cette émission, est prépondérant, beaucoup plus que dans d'autres pays. Et en même temps, ces diplômes-là, ce ne sont pas toujours des diplômes de l'enseignement supérieur. On sait que parfois, on a ce qui s'appelle un master avec un accent grave sur le E et un E après le R. Et ça nous fait rire. Mais en fait, ce n'est pas du tout comme un master à l'université. Ce qui m'offre une transition pour saluer David Giban. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes géographe et professeur des universités à Perpignan, chercheur au laboratoire ART-DEV, acteurs, ressources et territoires dans le développement, co-auteur avec Aurélie, donc c'était pas DEV, c'était DEV, Aurélie Delage, Kevin Marie et Nora Nafa de Géographie de l'éducation, un ouvrage très intéressant publié chez Armand Collin. Cette critique de l'enseignement supérieur privé, elle doit vous intéresser et en même temps, moi, tout ce que me disent ceux qui veulent défendre Galileo, bon, qui sont pas venus ce soir, hein, parce qu'on a quand même lancé des invitations, me disent, mais ça, c'est aussi les problèmes de la fac. C'est aussi les problèmes de l'université. Le manque de locaux, le manque de professeurs, et même une certaine précarité des enseignants que décrit Claire Marchal. Quelle est la différence pour vous
La différence, elle est, je pense qu'elle est située à deux niveaux. Tout d'abord, il y a une différence, je vais dire, d'abord en termes de rhétorique. C'est-à-dire que ces entreprises, hein, puisqu'il s'agit d'entreprises, se développent quand même sur une rhétorique qui est celle de l'évitement du public et l'idée que le privé fait mieux que le public, ce qui n'est pas forcément toujours vrai. La deuxième chose, effectivement, l'université aussi a des difficultés, mais ces difficultés sont quand même très différentes. Tout d'abord, on parlait, j'écoutais les taux de réussite et ça renvoie un peu en miroir au taux d'échec qu'on a à l'université, mais nous, nos taux d'échec sont en première année essentiellement et sont liés à différents contextes. Ensuite, on a certes des difficultés structurelles. C'est vrai que beaucoup d'universités recrutent une part importante de personnel non titulaire, mais malgré tout, vous avez, contrairement à beaucoup de ces écoles, des personnels titulaires en nombre et qui sont compétents, qualifiés par différentes instances nationales, voire européennes. Et ensuite, les recrutements qu'on fait de personnel vacataire relèvent aussi de normes assez strictes, hein, que ce soit de professionnels ou de doctorants qui viennent faire des cours et qui eux-mêmes sont diplômés ou dont les diplômes sont reconnus. Donc on n'est quand même pas sur les mêmes champs. Et moi, je voulais juste rebondir sur ce que j'ai entendu et exprimer peut-être une double inquiétude par rapport au devenir de ces élèves, hein, dans le secteur privé. Et la deuxième, c'est aussi une inquiétude en tant qu'universitaire et de voir ces entreprises qui aujourd'hui prospèrent vraiment sur la concurrence avec le public et n'hésitent pas à avoir un marketing assez offensif, y compris sur nos campus.
Sur vos campus, dans les salons de l'enseignement supérieur, je m'y rends parfois, donc on les voit, toutes ces écoles, on voit parfois le nom des groupes, parfois pas. Alors, cette concurrence avec l'université et ce marketing Parcoursup, qui consiste à dire, bah, grâce à nous, parfois, vous éviterez cette plateforme si stressante. Vous avez tenu à le décrire, Claire Marchal, c'est ça, c'est un grand argument de vente.
Je me suis rendue assez rapidement au début de mon enquête sur les salons étudiants. C'était la période, là on est en ce moment hein, dans Parcoursup, et c'était à la même période il y a 2 ans. Sur les salons étudiants, on a une ribambelle de stands avec des ambassadeurs. Donc ce sont des étudiants souvent eux-mêmes inscrits dans les écoles qui viennent présenter les avantages, enfin essentiellement les avantages de leurs établissements pour faire du recrutement de futurs effectifs. Effectivement, très très rapidement, le Parcoursup bien, c'est-à-dire si tu es inquiet de ne pas trouver ta voie sur Parcoursup, si tu es inquiet de ne pas être pris ou d'être sur liste d'attente ou d'être pris mais à l'autre bout de la France et ça va te coûter super cher par rapport à ton lieu de vie, eh bien tu peux t'inscrire dès maintenant dans notre école parce que nous on n'est pas sur Parcoursup et donc dès aujourd'hui tu peux t'inscrire, sécuriser ta place et tu n'auras pas besoin de stresser pendant 6 mois.
Mais c'est pas gratuit hein, de s'inscrire dès maintenant.
Bah alors sur des formations classiques, effectivement, ils proposent de s'inscrire au prix de la formation, hein, donc ça va être les milliers d'euros demandés par les établissements pour l'inscription. Donc de toute façon, il faut débourser cet argent. Parfois, certaines écoles ou certains ambassadeurs proposent de payer des acomptes, donc de payer quelques centaines d'euros avant de valider sa place pour pouvoir sécuriser un rendez-vous pédagogique ou une place sur les petits concours qui peuvent être organisés parfois sur les écoles. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu dans pas mal d'établissements différents et pas uniquement hein, du groupe Galileo Global Education sur les salons. Et puis le dernier paiement d'acompte qui survient parfois, c'est pour sécuriser des places en alternance avant d'avoir trouvé l'alternance dans laquelle les étudiants pourront faire leurs études, ce qui normalement ne devrait pas se faire.
Et cette accroche, elle est hyper importante pour les groupes d'éducation à but lucratif parce que ça rentre directement dans leur compte, dans leur projection et c'est des bilans qu'ils peuvent présenter à cette étape du parcours et se projeter dans l'avenir. On dit que c'est un public captif en fait quand on est inscrit. Alors, on peut toujours se dédire, mais une fois qu'on a versé de l'argent, c'est difficile, mais une fois qu'on a commencé, en général, on reste pour plusieurs années. Il y a un autre aspect que vous évoquez, et je le trouve extrêmement intéressant, c'est la difficulté pour les personnels. Les personnels encadrants, les personnels enseignants, à qui on demande un peu tout et n'importe quoi. D'ailleurs, ce ne sont pas toujours des enseignants. Il y a aussi des gens qui font du télémarketing, parce qu'il y a un recrutement aussi pour la formation continue en télémarketing. Enfin, c'est toute une ribambelle de métiers très pressurisés.
Pour comprendre la pression que subissent les différents corps de métiers qui travaillent dans ces écoles, il faut revenir à quelque chose d'assez basique, c'est l'outil qui est utilisé par le groupe, le Cube, qui est donc aussi le titre de l'ouvrage. Mmh. Le Cube, c'est un outil, un logiciel informatique dédié à la performance, donc qui étudie et analyse les performances du groupe. Ce que le Cube témoigne, c'est les effectifs du groupe qui rentrent dans chaque école par école. Donc semaine après semaine, les directions des écoles sont soumises à observer si cette semaine ils ont fait de la croissance parce qu'ils ont recruté beaucoup d'effectifs, dans ces cas-là le Cube sera vert, et s'ils n'ont pas fait suffisamment de croissance, le Cube sera rouge. À partir de ces calculs d'effectifs-là, on peut effectivement projeter la rentabilité du groupe sur cette fameuse captivité que vous mentionnez, c'est-à-dire l'étudiant inscrit, il va payer pendant 3 à 5 ans son école. Donc déjà, on étudie le bénéfice, quoi. Et en plus, après, on va dire, si on n'est pas dans la croissance, il va falloir faire de l'optimisation à côté pour rogner un peu sur les coûts pédagogiques. Donc, remplir les classes, baisser le statut des professeurs, c'est-à-dire prendre des professeurs qui vont être moins formés, qu'on va peut-être moins rémunérer, rogner un peu sur les frais de matériel informatique. Et tout ça, ça génère une grosse pression parce que les personnes qui sont à la direction des écoles, elles sont encouragées à recruter toujours plus d'étudiants en ayant connaissance que ça ne va pas forcément se faire toujours pour dans le bienfait de l'enseignement. Et les enseignants, eux, ils en subissent les conséquences directement dans les établissements, puisque eux sont chaque jour dans les classes avec parfois trop d'effectifs, pas assez de matériel, des heures de cours qui diminuent, etc.
Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont eu envie de vous communiquer le contenu de réunions ou de documents confidentiels. Le surnombre d'élèves, ça signifie des élèves assis sur les tables, dans des salles beaucoup trop petite, ça signifie aussi des problèmes de sécurité. Vous donnez l'exemple de l'école Penningen, qui est une école d'art située à Paris, c'est un nom assez prestigieux. Là, il y a des problèmes de mise aux normes, parce qu'en fait, il n'y a pas d'argent. Donc, ça coûterait trop cher par rapport aux objectifs du Cube que de réaliser les travaux.
J'ai donné cet exemple-là de cette école, effectivement, à Penningen, dans laquelle les effectifs étudiants chaque jour semblent être trop importants par rapport aux autorisations. C'est pas le seul établissement pour lequel les témoignages ou les éléments que je récolterai me témoigneront de la même chose, c'est-à-dire il y a trop de monde et en fait les salles de classe, les murs ils s'étirent pas, quoi. Et donc au bout d'un moment, s'il y a trop de monde, ça rentre plus. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs l'une des stratégies mises en œuvre par la direction du groupe, c'est le développement des cours en distanciel. C'est finalement assez commode parce qu'on peut gonfler les effectifs étudiants, avoir plus d'élèves dans les classes, mais en fait, comme une partie d'entre eux ne seront pas dans les murs de l'école, mais chez eux devant leur écran d'ordinateur, ce sera plus facile d'accueillir tous ces effectifs dans ces établissements qui n'étaient pas prévus parfois pour en accueillir autant.
Alors, on n'a pas de réponse de Galiléo, mais on a quand même des petits sons, parce qu'on a trouvé des interviews de Marc-François Mignot-Mahon, c'est le PDG du groupe. Lui, il n'est pas du tout d'accord avec cette façon de présenter les choses, écoutons-le.
Évidemment que prendre les années décisives d'apprentissage des jeunes doit être une mission, même si c'est fait par une entreprise qui, comme toute entreprise, doit avoir se développer et croître, c'est d'abord et avant tout une mission. Donc, il faut s'assurer que cette mission soit faite avec un niveau de qualité.
C'est pas que de la com, quoi.
Dans l'enseignement supérieur, il y a une sursensibilité. C'est pas un espace où naissent les margoulins, parce que c'est très compliqué à construire une école. Mais malgré tout, il faut un projet pédagogique et il faut la capacité de contrôle.
Marc-François Mahon-Mignot, interviewé par Laurent Nizy sur une chaîne média en ligne, Axel. Je voulais vous faire réagir, David Giban, sur cette idée de mission. Avoir une mission éducative, ça fait partie des arguments que développe Galiléo aussi quand il rencontre par exemple des sénateurs ou des députés, parce qu'il y a déjà eu quand même des enquêtes sur le sujet, et de dire voilà, on est devenus des acteurs essentiels. Et d'ailleurs, peut-être qu'on n'a pas assez dit, il scolarise quand même 25%, alors pas Galiléo tout seul, hein, mais 25%, un peu plus même, des étudiants français. Cette mission, est-ce que c'est celle de l'université qu'on vous prend ?
Oui, bah, complètement. Hein. Les propos qu'on vient d'entendre sont clairement là-dessus. Hein. D'ailleurs, le choix des mots est pas innocent. Hein. Le service de mission, et en fait, nous, l'université, on a une service de mission publique. Donc, on voit qu'ils s'approprient cela, ce qui est quand même problématique, hein, parce qu'on est face à des entreprises privées, comme l'a dit Claire Marsal à l'instant, dont l'objectif est de faire du profit, ce qui s'entend. Mais du coup, ça induit une confusion des genres quand même. Quand on voit les frais de scolarité et qu'on les compare aux nôtres. S'il y a un premier niveau d'écart, et les deuxièmes, c'est quand même le niveau de qualification des enseignants. Et là, nous, on joue vraiment, l'université publique joue vraiment ce rôle de service public, puisqu'elle met à disposition de tous les étudiants des enseignants qualifiés et certifiés par des diplômes européens. Ce qui n'est pas le cas du tout de ce genre d'entreprise, hein, que ce soit Galileo ou d'autres, hein, il y en a beaucoup, et qui, eux, voient cette mission de service public quand même à court terme et à un horizon quand même assez limité en termes de qualité des enseignants, de reconnaissance de leur diplôme, etc.
Alors, vous avez été vice-président de l'université de Perpignan, David Giban. Vous dites, voilà, ils viennent jusque dans notre campus. Est-ce que vous avez peur de vous faire remplacer, en fait, par cet enseignement supérieur privé ?
Alors, remplacer, je ne sais pas, mais en tout cas, on constate, et c'est pas récent, ça fait déjà 5-6 ans au moins, que ce type d'entreprise se développe. Alors, elles sont d'abord développées dans les grandes métropoles, et aujourd'hui, on les voit se développer dans les petites villes universitaires de type Perpignan, Albi, etc., où elles ont une politique très agressive, hein, à la fois en termes de marketing. Très souvent, elles viennent même sur nos campus, hein, avec des flyers, des camionnettes, des ambassadeurs ou des ambassadrices, hein, vendre diplôme à coup de marketing. Et ce que l'on constate, nous, et c'est là où on a des difficultés, c'est que le chiffre que vous évoquiez de 25% d'étudiants scolarisés dans l'enseignement supérieur privé ne fait que croître. Et cette croissance va assez vite. Alors, je ne pense pas qu'ils vont nous remplacer, mais en tout cas, ils sont en train de capter une bonne partie de notre public étudiant, à savoir essentiellement les étudiants issus de classes moyennes, moyennes inférieures, qui, globalement, se laissent séduire par ce type de formation privée, parce que ils cherchent souvent à éviter l'université, qui peut avoir mauvaise presse. Ils n'ont pas forcément toujours les moyens de partir dans des grandes universités ou dans des écoles prestigieuses qui nécessiteraient un passage par des classes élitistes comme les classes préparatoires. Et du coup, nous, plus ça nous vide en fait, ça nous vide d'une bonne partie d'une public scolaire, et on a un public scolaire qui était très souvent déjà, pour beaucoup d'universités, marqué par des difficultés sociales et qui est en train de se paupériser. Et moi, je verrais plutôt le risque dans une paupérisation accrue de nos propres étudiants.
Et pourtant, on va payer dans ces écoles pour rencontrer certains problèmes qu'on peut rencontrer à l'université. Par exemple, l'encadrement, parce que l'université n'est pas faite uniquement pour ça. L'université, c'est aussi les amphis. Ben, finalement, on va avoir le même cours par souci d'économie chez Galileo pour des centaines d'étudiants, parce que ça coûte moins cher de proposer la même maquette pédagogique à tout le monde. C'est ce que vous expliquez, Claire Marsal. Je voudrais qu'on parle des finances, vraiment d'argent. Vous avez évoqué ce cube, un indicateur sur lequel tout le monde a les yeux rivés chez Galileo. Mais ce qu'il faut dire aussi, je crois que c'est important de l'expliquer, c'est que c'est pas seulement avec l'argent des familles que tourne Galileo. C'est aussi, par exemple, avec de l'argent public, l'argent de l'apprentissage.
Effectivement, il y a deux modes de financement finalement principaux pour ces écoles-là. Le premier, c'est les familles, les enfants, les étudiants qui vont payer leurs écoles plusieurs milliers d'euros par an. Et l'autre mode de financement, c'est le financement des aides à l'apprentissage, puisque depuis un certain nombre d'années, depuis 2018, une réforme a portée par Muriel Pénicaud, qui est aujourd'hui membre du conseil d'administration, hein, de Galileo Global Education, qui était à l'époque ministre du Travail. Elle a mené une réforme de l'apprentissage qui avait un objectif, c'est d'amener la jeunesse, les jeunes vers l'emploi et donc de développer massivement les contrats d'apprentissage dans l'objectif d'arriver à peu près 1 million. Depuis, on a observé que ces écoles-là, les écoles privées lucratives, par tout un tas d'allègements finalement des contraintes que je détaille dans le livre, ont pu développer massivement les contrats d'apprentissage jusqu'à en avoir plusieurs. Alors chez Galileo, à un moment, on est parlais de plus de 20 000 contrats d'apprentissage sur une année. Et en fait, là, les étudiants, on va leur dire, si tu n'as pas les moyens de payer ton école 7 000, 8 000, 9 000 euros l'année, ne t'inquiète pas, viens en apprentissage, tu vas non seulement ne pas payer ton école, mais en plus, tu vas être rémunéré parce que tu vas travailler dans une entreprise et à la fin, tu pourras prétendre facilement à trouver un emploi. Il faut savoir que c'est pas parce que l'étudiant ne paye pas que la formation, elle est gratuite. C'est parce que, en fait, c'est l'État, c'est les dotations publiques, les fonds de l'apprentissage qui vont abonder, qui vont d'une part payer les écoles, c'est-à-dire le coût de la formation, qui s'avère être parfois, ce que j'explique dans le livre, plus élevé lorsqu'il est en initial, enfin en apprentissage qu'en initial, donc c'est-à-dire que les écoles gonflent le tarif. Certaines écoles gonflent leur tarif de formation lorsqu'elles sont en apprentissage, alors même que c'est les dotations publiques qui les financent. Et ensuite, c'est l'argent de l'État dédié aux entreprises qui, elles, vont rémunérer ces apprentis. Et en soi, l'apprentissage, pourquoi pas, c'est intéressant, effectivement, pour vraiment un bon nombre de personnes, d'étudiants qui n'ont pas forcément les moyens de se payer des écoles et qui n'ont pas forcément les moyens de faire des études sans être rémunérés en parallèle. C'est important. Ça peut permettre vraiment un accès à l'emploi. Moi, ce que j'interroge, c'est la capacité des autorités publiques à réguler, à contrôler le financement, l'orientation de ces fonds, si tant est qu'à la fin, les formations ne sont pas, comme j'expliquais plus tôt, à la hauteur des attentes des étudiants ou qu'il y a un système d'optimisation qui se met en œuvre.
David Giban, à Perpignan, sur l'apprentissage, j'imagine.
Oui, sur l'apprentissage et également sur les problèmes que les étudiants rencontrent dans ces écoles. Alors sur l'apprentissage, peut-être aussi dire que là, ces entreprises privées sont un peu plus fortes que nous, les universités. Dans mon université, donc, on a beaucoup de formations en apprentissage et très souvent, les entreprises nous disent préférer travailler avec eux parce qu'ils sont beaucoup plus réactifs. Ils ont une force de frappe que nous, on n'a pas et qui nous pénalise parce qu'on a un fonctionnement plus bureaucratique. Et du coup, c'est vrai que dans l'apprentissage, on est moins visible alors qu'on pourrait l'être beaucoup plus. Et la deuxième chose sur laquelle je voulais réagir avec peut-être un peu d'ironie, c'est lorsque vous évoquiez donc les problèmes que rencontrent ces étudiants qui peuvent être similaires en termes d'amphi surchargé à l'université. Moi, je dirais qu'ils rencontrent encore plus de problèmes qu'à l'université parce que certes, les classes sont surchargées, mais nous, les enseignants sont qualifiés, compétents et on a une offre quand même de qualité qui est au moins toujours assurée.
Eh bien, vous êtes là pour défendre l'université et vous le faites, David Giban. On va continuer à parler aussi d'économie avec Clément Lacombe. Je rappelle le titre de votre enquête. Alors, c'est une plus petite enquête que le livre de Claire Marchal, mais ça accompagne les bonnes pages dans l'Express. Son titre est super...
Le
Nouvel Obs, pardon. Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi j'ai dit l'Express. Les super profits des marchands de diplômes, donc à lire dans le Nouvel Obs et sur le site du Nouvel Obs comme je l'ai fait. Vous expliquez, et c'est tellement intéressant, que c'est un investissement très rentable, l'enseignement supérieur, que les fonds d'investissement sont aujourd'hui persuadés d'avoir trouvé la martingale pour intégrer le secteur, pour aider les entreprises à investir, parce que c'est là qu'on va gagner beaucoup d'argent dans le monde d'aujourd'hui.
Il y a un signe qui ne trompe pas, en fait, c'est quand vous regardez qui sont les actionnaires de ces entreprises. Les 10 principaux groupes d'enseignement privé lucratif en France, vous en avez 9 où vous avez des fonds d'investissement au capital. Donc c'est des entreprises, des fonds d'investissement, en fait, c'est des sociétés financières qui placent l'argent pour le faire prospérer, en quelque sorte,
pour chercher la rentabilité.
Pour chercher la rentabilité, chercher des rendements, c'est leur métier. Donc on les trouve généralement dans plein de secteurs. Et là, quand vous avez la quasi-totalité des grandes entreprises d'un secteur où vous trouvez des fonds d'investissement, vous pouvez vous interroger. Et vous avez tous les grands noms de ce qu'on appelle le private equity. Le private equity, c'est le financement dans des sociétés non cotées en bourse. Pourquoi non cotées en bourse? En fait, parce qu'en fait, c'est des investissements où il y a moins de besoin de transparence, il y a moins de publicité, c'est des investissements plus discrets. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une entreprise dont le but est gagner de l'argent, qui a besoin d'actionnaires. Donc, vous avez ces fonds d'investissement qui rentrent au capital et qui vont aider cette entreprise à prospérer, à grossir et donc à gonfler ce qu'on appelle le EBITDA. C'est un mot qui revient énormément dans le livre de Claire Marchal. On voit que chez Galileo, on est totalement préoccupé par l'EBITDA tout le temps. L'EBITDA, c'est une notion comptable et c'est le résultat opérationnel de l'entreprise. C'est ce qu'elle dégage vraiment comme bénéfice si on exclut les impôts, les amortissements, les charges financières. Et donc, c'est ça qu'on scrute. Et en fait, ces entreprises, elles dégagent beaucoup d'EBITDA. Dans les discussions que j'ai pu avoir, les documents que j'ai pu récupérer, on voit que souvent, elles ont des rentabilités assez conséquentes. Pour certaines, qui dépassent 30% du chiffre d'affaires, c'est-à-dire que vous gagnez 100, et bien vous en avez 30 de résultats opérationnels, et c'est très bien raconté aussi dans le livre de Claire Marshall, où même par moment on parle de 40 dans certains établissements de Galileo. Donc vous avez ça chez Galileo, mais aussi dans plein d'autres entreprises. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu une ruée des fonds d'investissement pour venir sur ce secteur, et ils ont misé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, et notamment on a vu se multiplier, alors, des opérations qu'on appelle des LBO. Le LBO, c'est...
Il faut tout m'expliquer.
Le LBO,
c'est pas une émission d'économie, voilà. Mais c'est un sujet très économique.
Alors, le LBO, en fait, c'est une technique financière qui a été créée à Wall Street dans les années 80. Qu'est-ce que c'est? C'est on achète une entreprise, mais on n'achète pas l'entreprise avec son argent, on achète l'entreprise avec de la dette. Et qui c'est qui va rembourser cette dette? C'est l'entreprise qu'on rachète. En fait, c'est assez simple.
Les bénéfices.
Et ben voilà, c'est les bénéfices que l'entreprise va dégager qui vont servir à rembourser la dette. Finalement, vous prenez pas beaucoup de risques, c'est l'entreprise que vous rachetez qui prend tous les risques. Et pourquoi ils font ça? En fait, ces fonds d'investissement ont l'habitude de mettre sous tension. C'est le vocabulaire consacré dans ces fonds d'investissement. Ils mettent entreprise sous tension, donc ils la font grossir, ils font grossir son résultat opérationnel, ils coupent les coûts, ils la font se développer aussi, donc ils multiplient les acquisitions, ils achètent d'autres entreprises, ils se développent à l'étranger, donc ils grossissent, et dans quel but? Dans le but de revendre l'entreprise 3, 4, 5 ans plus tard. Et c'est pour ça aussi souvent qu'ils peuvent dire, non, on dégage pas de résultats nets positifs, ou alors ce qu'on entend souvent, on ne verse pas de dividendes, oui, on verse pas de dividendes, mais dans 3, 4, 5 ans, qu'est-ce qui va se passer au moment où vous revendez, et ben là vous pouvez faire une énorme plus-value. Et c'est pas le fonds d'investissement, le private equity, c'est de là aussi que viennent énormément de fortunes. On a aujourd'hui 4 fondateurs de groupes d'éducation privée dans les 500 premières fortunes françaises.
Merci pour cette leçon rapide d'économie de l'éducation dans l'enseignement supérieur. Mais voilà, restez avec nous, hein, parce qu'on aura sûrement encore des questions à vous poser. Ça veut dire que Claire Marshall, quand on donne 10 000 euros pour payer une année, parce que ça peut être plus que 10 000 euros d'ailleurs, hein. C'est souvent 6 000, 7 000, mais ça peut être 13 000, j'ai regardé les prix. Par exemple, Penningen, c'est vraiment cher. On sait que des milliers d'euros, alors 20, 30%, en fait, vont pas aller dans le fonctionnement de l'école. Est-ce que les gens en sont conscients?
S'ils en sont conscients, j'en suis pas sûre. Ou en tout cas, peut-être qu'après la lecture de ce livre, ils auront quelques clés de compréhension supplémentaires. Mais c'est vrai, dans les éléments confidentiels et internes à l'entreprise que j'ai recueillis lors de ces 2 ans d'enquête, il y a notamment des rapports qui donnent à voir la répartition finalement de ces 10 000 euros, si on se dit que c'est 10 000 euros. C'est une moyenne qu'on va se dire, mais ça va être plus facile. En règle générale, donc si on prend cette moyenne de 10 000 euros, on va avoir... Pour certaines écoles, on va dire 2 000 euros, donc 20% qui vont être dédiés à la pédagogie, c'est-à-dire à rémunérer les professeurs et à donc donner cours quoi. Donc voilà, sur 10 000 euros, on peut dire que à peu près 2 000 euros seulement seront dédiés à faire de l'enseignement. Ensuite, on va avoir une charge importante qui va être dédiée au loyer quand il y a des loyers pour l'école, à l'électricité, à la sécurité, au ménage. Enfin voilà, toutes les choses qui font qu'un bâtiment fonctionne. Et puis ensuite, il va rester ce dont on parlait plus tôt, c'est-à-dire la marge, l'EBITDA, ce que l'entreprise va pouvoir se dégager. Et là, ça peut aller de 20% à plus de 30%, voire plus encore pour certains établissements, avec un objectif, effectivement, qui est d'optimiser les coûts pour faire grossir cette rentabilité.
Et optimiser les coûts, j'y reviens, c'est tout ce qu'on a dit au début de l'émission, c'est-à-dire la manière dont on étudie, enfin le cadre, comment on travaille, c'est-à-dire à flux tendu, avec beaucoup de stress, des maquettes pédagogiques qui changent au milieu de l'année. Je donne des exemples issus évidemment de votre livre, hein, Le Cube Claire Marshall, puisqu'on parle de l'enseignement supérieur à but lucratif, je parlais peut-être des autres groupes, j'ai prononcé le nom de Younis, il y a aussi Omnes, des écoles, et on a beaucoup entendu dans les médias des histoires de fermetures très abruptes, d'écoles qui tenaient pas la route et d'étudiants laissés en plan, c'était plutôt des écoles indépendantes. Vous avez aussi enquêté sur ces noms?
Bien sûr. Alors en fait, les pratiques qu'on constate, que Claire Marshall raconte chez Galileo, les témoignages qu'on a montrent qu'elles peuvent exister également vont ailleurs. Vous avez même d'autres groupes qui présentent des rentabilités supérieures encore à celles de Galileo aujourd'hui. Ce qu'on constate également, c'est que vous avez les grands groupes, vous avez aussi beaucoup d'officines, c'est-à-dire des petites sociétés privées créées à la va-vite. Laurent Batch, qui est l'ancien patron de Dauphine, qui a écrit un rapport sur ce sujet, dit qu'il est plus facile en France d'ouvrir une boîte d'éducation supérieure privée qu'une boulangerie. Et en fait, c'est vrai que l'argent de l'apprentissage, le fait qu'à partir de 2018, on ait créé un appel d'air, ça a engendrer la création de quantités de centaines. On parle de 600 à 700 officines qui délivrent des diplômes un petit peu à la va-vite. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent public. J'ai juste rappelé des ordres de grandeur. Aujourd'hui, l'argent de l'apprentissage, c'est environ 16 milliards d'euros d'argent public par an. Pour ceux que ça à qui ça ne dit rien, 16 milliards, c'est 1,6 fois le budget de la justice. Donc c'est des sommes qui sont absolument considérables. Et encore, c'est une estimation basse.
Alors moi j'avais des sommes beaucoup plus importantes, alors, plutôt de l'ordre de 20-25
voilà, c'est ça. Voilà. C'est que si vous rajoutez également l'argent de processus de défiscalisation, donc c'est les calculs d'un économiste de l'OFCE qui s'appelle Bruno Coquet, on est plutôt à 22, 23, 24 milliards d'euros. Donc c'est vraiment des sommes très conséquentes. Le chiffre de 16, c'est celui qui est avancé par la Cour des comptes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à partir du moment où on parle finances publiques, quand la Cour des comptes donne des pistes d'économie budgétaire, la première chose qu'elle dit tout de suite, c'est l'argent de l'apprentissage, en disant, il y a sans doute eu une fuite en avant, on a mis énormément d'argent public, ça a généré beaucoup d'opportunisme, pour utiliser une litote, et sans doute qu'il y a moyen de faire des économies budgétaires sur ce domaine-là.
Et finalement, ça nourrit l'économie de groupe. J'indique que Yonis, mais parce que je l'ai lu dans votre enquête, lui préfère investir dans l'immobilier. C'est pas la même mécanique.
Non, c'est vraiment dans les 10 grands groupes, c'est vraiment celui qui a un modèle très différent. Lui, le modèle, c'est vous avez deux fondateurs qui ont encore la totalité du capital.
C'est une entreprise familiale. C'est Marc Selam.
Voilà, c'est exactement. C'est l'actionnaire principal qui a comme associé Monsieur Bardèche. Et en fait, eux, leur système. C'est vous avez des sociétés qui donc donnent des cours et parallèlement vous avez des sociétés foncières donc qui possèdent des immeubles et qui imputent des loyers aux écoles. Et en fait, c'est par ce mécanisme-là, par les loyers qu'ils perçoivent grâce à leur société foncière, qu'ils font leur beurre.
Mais c'est pas rien, hein, ce parc immobilier, on l'entend avec vous, on le voit aussi, et David Giban, je sais que vous vouliez réagir sur ce qui vient d'être dit, et en même temps, je voudrais qu'on reparle d'aménagement du territoire. On a parlé des petites villes qui se battent hein, pour pratiquement voir des écoles s'implanter sur leur commune. Enfin, là, voilà, on a l'exemple dans le livre de Bois-Guillaume, c'est à côté de Rouen, où les élus sont enchantés de voir arriver une école, parce que c'est tout un tas de revenus associer des étudiants qui vont dépenser de l'argent de la vie courante et créer aussi tout un contexte économique autour d'eux.
Oui, tout à fait. Hein. On voit que ce qu'on appelle aujourd'hui les petites villes et les villes universitaires d'équilibre, notamment les collectivités territoriales, hein, sont extrêmement ravis de les accueillir. Ça répond en fait à plusieurs choses. Ça leur permet d'exister, tout simplement, de développer des politiques d'attractivité. Ça leur permet donc d'apparaître sur la carte de France comme une ville universitaire. Donc derrière, elles supposent qu'elles vont attirer les entreprises. Ensuite, il y a des enjeux tout simples. Hein. Par exemple, l'arrivée d'étudiants, ça rajeunit la démographie locale. Ça permet aussi de relancer ou de maintenir une activité par exemple dans le commerce, dans l'habitat. Ça permet aussi d'envoyer un message très positif à leurs électeurs et à leurs administrés en disant regardez, on agit pour vous et on peut offrir un service de proximité puisque les universités où le service public ne vient pas chez nous, on est trop petit, on est trop loin, etc. Par contre, ces écoles sont là et elles jouent un rôle de service public. Et là, on voit des collectivités qui parfois mettent à leur disposition des locaux. Ça répond aussi à des besoins de, par exemple, telle mère m'a dit dans une commune d'Occitanie, j'avais une grosse friche industrielle, je ne savais pas quoi en faire. Ils sont arrivés, j'ai retapé la friche pour eux. Et donc, ce sont des milliers d'euros ou des centaines de milliers d'euros qui sont comme ça dépensés par ces collectivités.
et qui vont nourrir l'économie qu'on a décrite. En même temps, c'est vrai que c'est intéressant pour les villes, dont on peut se demander pourquoi elles sont en concurrence, mais intéressant d'avoir des étudiants. Je voudrais revenir sur la qualité des formations. Chez Galileo, il y a aussi la formation continue et cette question qui se pose sans cesse de, finalement, qu'est-ce qu'on raconte aux étudiants? Il y a quoi dans ces apprentissages? Évidemment, j'ai pas pris d'exemple précis, j'ai plutôt pris une parodie.
L'objectif pour nous, c'est d'accompagner les entreprises, les aider à piloter les potentiels pour répondre à une problématique donnée. C'est-à-dire mettre l'accent sur les besoins spécifiques et les implémenter à une mise en œuvre opérationnelle.
Et concrètement ?
Je sais pas. Alors moi, je suis coach produit et je forme sur le module des bonnes pratiques. Full Sheet Formation, c'est plus de 3000 collaborateurs formés grâce au budget formation de votre entreprise, obligatoire et déductible. Avec Full Sheet Formation, vos collaborateurs sont formés et informés.
France Culture. Être et savoir, Louise Touret.
Voilà, c'est pas mal, un petit contenu humoristique pour se détendre, même si le sujet est grave. C'est Bertrand Goncalves que je regarde en général sur Instagram. Je crois qu'il sévit sur d'autres réseaux et toutes ses parodies sont hilarantes. C'est ce que vous racontent certains adultes aussi, enfin en tout cas des adultes plus âgés, ceux qui sont en formation continue, c'est que ils investissent leur CPF, c'est-à-dire je crois que c'est aussi une question d'éducation, hein, l'argent de leur formation, l'argent qu'ils ont cotisé pour pas du bullshit ou du full shit, si on reprend le terme qu'a employé Bertrand Goncalves.
Dans le livre, je mentionne assez longuement une école en particulier de Galileo Global Education qui s'appelle Studi et qui est spécialisée dans les formations continues, formations à distance aussi à 100%, qui sont financées parfois par l'apprentissage, parfois par le CPF et parfois aussi via des collaborations par appel d'offres avec France Travail. Hein, parce que on voit bien hein, quand même que dans ce système-là qui est décrit, on a des institutions publiques qui collaborent, qui travaillent hein, avec le privé lucratif. J'ai parlé avec beaucoup de commerciaux déjà qui travaillent chez Studi, qui sont chargés toute la journée de recruter pour atteindre les dizaines de milliers d'euros d'objectifs mensuels qu'ils ont à avoir, et avec les formateurs et les étudiants. Alors chez Studi, on parle d'apprenants qui sont inscrits dans ces écoles-là. Et ce qu'ils décrivent est assez troublant finalement, parce que donc les apprenants, les étudiants, donc c'est des adultes en reconversion qui ont eu des chemins de vie parfois compliqués, parce que effectivement c'est pas tous les jours facile de se réveiller, de se dire j'arrête mon métier que je fais depuis 10 ans pour faire quelque chose de complètement nouveau, je vais apprendre, je sais pas, le motion design par exemple, ou le commerce, devenir agent immobilier, je sais pas, je me lance là-dedans, je donne mon CPF finalement, donc plusieurs milliers d'euros qui ont été le fruit quand même d'un certain temps de travail auparavant. Et en fait, les cours sont pas au rendez-vous, quoi. C'est-à-dire que ils ont des cours 100% en distanciel, qui sont parfois, qui contiennent parfois beaucoup d'erreurs, parfois qui sont obsolètes.
C'est pour ça que j'ai pris ce son et qui parfois sont les mêmes pour des formations assez différentes.
C'est ça. Ça, j'ai des étudiants qui me le racontent, mais aussi des personnes qui ont travaillé à la mise en œuvre de ces plaquettes pédagogiques ou de ces cours et qui me disent que lorsque il faut vite mettre une formation sur le marché finalement, on veut juste faire de l'optimisation des coûts pédagogiques, on va proposer une seule et même formation à tout un panel de cours, une seule et même plaque, enfin cours, pardon, pour tout un panel de formations différentes, et donc que il y a pas du tout de spécialisation, et c'est des cours très très généralistes qui vont pas apprendre grand chose, dédiés en tout cas pas liés uniquement à ce pourquoi l'élève s'est inscrit, et qui vont permettre de remplir le volume de cours, le volume horaire de cours de l'étudiant, sans pour autant qu'il apprenne des choses très 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 spécialisantes, quoi.
Il y a sa formation, ça pose la question de la qualité de la vérification. Aujourd'hui, le PDG de Galileo était reçu au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Il a vraiment été reçu par les deux ministres, hein, Elisabeth Borne et Baptiste Philippe. En fait, c'est un nouveau ministre et je perds un peu les noms des ministres. C'est Philippe Baptiste, Philippe j'ai dit Baptiste. À l'envers, pardon. Et Philippe Baptiste pour, on ne sait pas ce qui s'est dit. Hein. D'ailleurs, le ministère me répond pas, en tout cas pas suffisamment rapidement pour que j'ai des infos sur la question. Ce qui semble émaner toutefois, c'est l'idée de plus de labels de qualité, pas les changer, mais faire un Calliope. Il y a un label qui s'appelle Calliope, faire un Calliope Plus, par exemple. Est-ce que cette labellisation, ça vous semble une forme de réponse? J'imagine que non, David Giban, mais dites-moi.
Pardon, non, parce qu'elles existent déjà, ces labellisations. Il y en a plusieurs. Hein. Il y a le LMD, il y a ensuite les référentiels qui sont développés par l'HCRS, hein, qui est le comité en France qui évalue toutes les formations universitaires et qui a plutôt la dent dure. Et ensuite, il y a aussi d'autres labels, hein. Par exemple les titres délivrés par la CTI pour les écoles d'ingénieurs.
Ça c'est donc, vos labels. Hein, LMD, c'est licence, master,
doctorat. Pardon, hein, qui est une norme européenne, voilà, qui définit clairement la structuration des diplômes et les attendus.
Donc, pour vous, on devrait se contenter de ces labels publics. Comme vous êtes géographe, je voudrais vous emmener vers un autre sujet qui me semble intéressant, qui est abordé dans le livre de Claire Marchal.
On est d'origine française et on est toujours une société française. Donc, on va avoir à peu près un tiers de notre activité en France, 70% de notre activité en Europe, incluant la France, et évidemment... le reste en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud.
Marc-François Mahon-Mignot, PDG de Galileo Éducation, dont on parle dans Être et Savoir aujourd'hui à l'occasion de la sortie du livre Le Cube, une enquête de Claire Marchal. Vous êtes avec nous. C'est vrai que cette mondialisation, elle est aussi décrite dans le livre.
Je suis allée au Sénégal, à Dakar plus précisément, pour enquêter sur la présence des groupes privés, des groupes d'enseignement supérieur privés lucratifs au Sénégal précisément. Mais il se trouve que, avant d'en parler plus longuement, Galileo Global Education, on disait c'est quasiment 300 000 étudiants dans le monde. C'est une centaine de campus dans 20 pays du monde. Hein. Ils sont présents vraiment dans le monde entier. Et c'est pas pour rien, c'est parce que l'enseignement supérieur privé devient donc un marché avec des étudiants qui voyagent, qui se déplacent, qui passent d'une école à l'autre. Le groupe met en place des partenariats aussi entre ces différentes entités dans différents pays du monde. Ça permet de recruter aussi toujours plus d'étudiants. Donc moi, je me suis rendue au Sénégal parce qu'on constate que le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire aussi, sont des pays qui attirent beaucoup d'écoles. Moi, quand j'étais dans les rues de Dakar, j'étais assez surprise de voir un peu partout des panneaux publicitaire à peu près un peu gigantesque qui affichait le nom de grandes écoles privées du françaises ou canadiennes par exemple parce que en fait en allant à Dakar par exemple, ben ces écoles-là, elles vont aller recruter des effectifs étudiants qui vont être attirés par le tampon école française et qui n'ont pas forcément envie de s'inscrire dans l'université de Dakar par exemple parce que elle aussi a une mauvaise opinion finalement, enfin c'est-à-dire que elle est en faillite
mauvaise
financière,
réputation.
Mauvaise réputation, merci, parce qu'elle est en faillite financière et parce que les étudiants ont plus envie de s'y inscrire et parce que ça fait des années que les politiques publiques qui ont été menées au Sénégal ont été aussi en faveur du développement du privé. Donc on voit qu'il y a un parallèle qui se crée entre ce qui se passe en France et ce qui se passe depuis aussi des années au Sénégal.
David Giban, vous étudiez cette mondialisation de l'enseignement supérieur privé à but lucratif. C'est toujours un peu long à dire.
Oui, c'est pas un phénomène récent. Hein. Galileo est loin d'être un exemple isolé. Peut-être pour donner 2-3 chiffres rapidement, hein, c'est un secteur, alors le secteur de l'éducation au sens large, c'est un secteur économique extrêmement important. C'est environ 12 500 milliards de dollars, dont la moitié assurée par le supérieur privé à l'échelle de la planète. C'est un taux de croissance parmi les plus élevés, hein, c'est 7%, et des rentabilités, comme on l'a entendu, entre 20, 30, voire 40%. Et c'est un système qui est complètement financiarisé, qui est dominé par des grandes entreprises qu'on appelle les global led business. Donc ça, c'est évidemment en France Galileo, mais il n'est pas le seul. Hein. Son principal concurrent est américain, il s'appelle Laureate Education Inc. Il a également à peu près 350 000 étudiants, plutôt en Amérique du Sud. Et aujourd'hui, on voit se développer en provenance des pays dits du Sud, hein. D'autres géants, il y en a deux qui sont vraiment très importants, c'est le chinois Widong, qui est très présent en Asie et en Afrique, et le brésilien Objectivo, qui est présent donc sur le continent sud-américain et aussi dans les pays lusophones.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on utilise beaucoup l'image du Far West pour décrire ce qui s'est passé en France avec ce développement rapide et peut-être un peu violent de... pas aussi violent que le Far West, évidemment, de l'enseignement supérieur privé. Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe, l'enseignement supérieur aux États-Unis. Vous vouliez nous en dire un mot, Clément ?
Oui, je vais citer Marc-François Mignon-Mao, dont l'interview que vous venez...
J'ai coupé avant qu'il en parle.
Voilà, il parle des États-Unis ensuite, parce que l'intervieweur lui demande, et les États-Unis, et il dit, bah, aux États-Unis, en fait, là, on ne peut plus y aller, parce qu'il y a eu tellement de... C'est pas le mot qu'il emploie, mais il y a eu tellement d'excès que le secteur for profit, c'est-à-dire l'enseignement privé lucratif, a quasiment cessé d'exister. Effectivement, on connaît les dérives qui ont été beaucoup racontées aux États-Unis dans les années 2000, dans la première moitié des années 2010, et donc il y a une régulation qui s'en est suivie. Et ce que dit Marc-François Mignon-Mao, c'est que c'est plus un endroit où on peut faire du privé lucratif, où on peut gagner de l'argent et beaucoup d'argent sur le supérieur privé.
Depuis la crise de 2008 et l'explosion de la bulle des dettes, David Giban, sur finalement cette géographie de l'enseignement supérieur, c'est étrange, mais les États-Unis ont des régulations beaucoup plus fortes. Les grandes universités américaines, elles coûtent cher, mais elles ne sont pas du tout lucratives, par exemple.
Ah non, même beaucoup sont déficitaires. Il y a quelques années, par exemple, Harvard était marqué par des déficits importants. Même si les coûts de scolarisation sont très très élevés. En moyenne, par exemple, moi dans ma discipline, un master de géographie dans une très bonne université, c'est 45 000 dollars par an. Mais ce qui est intéressant, c'est que contrairement à la France, où pourtant nous sommes dans un pays centralisé avec un État fort, aux États-Unis, pays décentralisé, avec un État beaucoup moins fort, ce sont les États fédérés qui jouent un rôle important. Et qui, eux, sont des financeurs, très souvent des universités publiques, comme les universités d'État, mais aussi des universités privées, et du coup, sont très attentifs à ces questions-là, sachant qu'aux États-Unis, en arrière-plan de tout cela, il y a le poids énorme de la dette étudiante, qui est aussi une question sociale très importante, qui joue sans doute sur cette régulation.
Mais est-ce que ça pourrait pas devenir une question en France, parce qu'il y a aussi des étudiants qui s'endettent. D'ailleurs, dans les salons étudiants et sur les sites des écoles, on voit des noms de banques qui proposent des prêts. Est-ce que, alors, je me retourne vers vous parce que je suis très démunie pour parler d'économie, Clément Lacombe. Est-ce que une bulle comme ça pourrait se créer avec tout cet argent qui circule de manière assez rapide et
alors une bulle,
pas
c'est
très
toujours
contrôlée.
Compliqué de prévoir les bulles.
Je vous demande pas de prévoir une date d'éclatement, mais est-ce que est-ce qu'une bulle se forme ?
Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que il y a beaucoup d'étudiants qui font des crédits. Le but d'un crédit, c'est de pouvoir le rembourser. Et quand vous commencez votre vie professionnelle, effectivement, en devant rembourser 200, 250, 300 euros par mois, et que vous avez une rémunération qui n'est pas à la hauteur de ce que vous attendiez, que vous gagniez pas grand-chose de plus que ce que vous auriez gagné sans faire cette formation, oui, ça peut poser des problèmes. Ça peut poser des problèmes financiers, des problèmes individuels, ça peut aussi poser des problèmes politiques, parce que en fait, on a pu mentir aussi à ces gens-là en leur promettant l'ascenseur social, en leur promettant une forme d'émancipation et d'élévation par l'éducation, et en investissant là-dessus et en ayant pas le retour attendu. Donc oui, ça peut poser pas mal de problèmes.
Mais c'est une autre bulle qui éclate aussi. Claire Marshall, toute dernière question, il ne reste pas énormément de temps. Vous avez été reçue dans les ministères. Est-ce que vous avez des échanges avec des gens de l'enseignement supérieur, avec le ministère du Travail ? Est-ce que vous avez l'impression aussi d'apprendre des choses aux dirigeants politiques, aux responsables qu'ils ne sauraient pas ?
Moi, je suis pas là pour apprendre des choses aux responsables
politiques.
Avec
l'enquête, on apprend
des
choses.
En tout cas, l'enquête, elle a pour but de donner, de mettre en lumière des problématiques qui existent dans certains établissements d'enseignement supérieur privé. On verra, en tout cas, ce que les réunions qui peuvent être organisées, alors dans lesquelles je ne suis pas moi, mais voilà, on constate qu'il y a une résonance politique et médiatique en ce moment avec la finalisation des vœux Parcoursup. C'est relayé assez largement, mais parce que il y a un enjeu majeur, surtout pour les étudiants et pour les parents, qui, comme on l'a dit, s'endettent parfois beaucoup ou sans dépenser de l'argent eux-mêmes, s'engagent dans des études longues avec un espoir, c'est s'épanouir personnellement et professionnellement, trouver un emploi, et c'est aussi pour les étudiants et pour les parents que ce livre, il a vocation à exister, pour qu'ils puissent s'informer et prendre des choix d'orientation avec tous les éléments en main.
Merci beaucoup Claire Marchal. Le Cube est publié chez Flammarion, révélation sur les dérives de l'enseignement supérieur privé. C'est extrêmement riche et intéressant. On n'a absolument pas fait le tour de tout ce que raconte cette enquête.